aujourd'hui de la pollution des sols et du recyclage des déchets. Bon, ça, par rapport à mes compétences, ça tournera principalement autour des sols et on abordera l'aspect recyclage des déchets dans le cadre de l'agriculture. Alors, donc, je travaille à l'INRA. Donc voilà un peu le plan que je vous propose. Donc je commencerai par présenter un peu l'INRA, mais ça ira très très vite. Ensuite, pour bien cadrer le sujet et pour bien comprendre les enjeux qui tournent autour du sol, bah, je vous présenterai ce que c'est que le sol. C'est pas si évident que ça. On parlera bien sûr de la pollution des sols et du recyclage des déchets en agriculture. Et après, vous aurez la parole pour m'interroger, bien sûr, sur des questions qui vous passent par la tête. Alors, l'INRA, donc, c'est l'Institut National de la Recherche Agronomique. C'est un organisme de recherche public. C'est le deuxième en France après le CNRS. Et c'est le premier organisme de recherche européen qui traite des questions de l'agronomie. Donc, on est fonctionnaire à l'INRA et environ 9000 personnes, chercheurs, ingénieurs, techniciens et aussi administratifs. Alors, le domaine d'intervention d'INRA, donc trois grands axes qui tournent autour de l'alimentation, l'agriculture et l'environnement. Et vous voyez que là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui tourne plus autour de l'agriculture et l'environnement. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, le sol. Alors, le sol, on va déjà commencer par une définition. C'est une définition de l'ISO, donc la normalisation. Le sol, c'est la couche supérieure de la croûte terrestre qui est transformée par des processus climatiques, physico-chimiques et biologiques. Alors, on va essayer d'expliquer tout ça. Vous voyez déjà, c'est assez complexe. Alors, comment ça se forme? Donc, c'est en fait la dégradation de la roche mère qui va former d'abord des petites particules. Ces particules vont ensuite s'enrichir de la matière vivante, matière organique, qui vont venir enrichir ces minéraux et par le biais notamment de l'action du climat et principalement de l'eau, ce sol va s'organiser en différentes couches qu'on appelle horizons pour former un sol. Donc le sol, déjà, c'est un système complexe. Hein. On a vu qu'il provenait de la roche. Donc on a une partie minérale, ce sont les minéraux, les argiles, tout ce que vous pouvez rencontrer. Une partie organique. Alors la partie organique, c'est quoi? C'est à la fois de la matière vivante. Hein, on verra ensuite que le sol, c'est foisonnant de vie. Et une partie morte, hein, c'est par exemple les feuilles des arbres qui tombent et qui viennent enrichir cette partie minérale. Une partie liquide, c'est de l'eau, avec des éléments qui vont notamment servir à nourrir les plantes pour leur croissance. Et aussi une partie gazeuse, bon, qui est importante pour la respiration des êtres vivants qui vivent dans ce sol. Alors quand on dit le sol, en fait, il faudrait dire les sols. Il y a une très très grande diversité des sols. Et là, vous avez la carte de l'Europe des sols. Donc vous avez autant de couleurs qu'il n'y a de sols différents. Et chaque sol a un mode de fonctionnement différent. Alors on ne voit pas très bien ici, mais une autre manière de visualiser la diversité des sols, c'est par exemple ce qu'on pourrait voir dans notre laboratoire. Hein, vous avez ici des sols, on ne voit pas très bien à l'image, mais la diversité des couleurs qu'on peut rencontrer sont autant d'indicateurs qu'il n'y a de sols différents. Voilà, une autre visualisation, ce sont les coupes. Hein, vous avez ici différents sols, plus ou moins caillouteux, très riche en matière organique et plus ou moins organisé, hein, avec différentes couches comme vous voyez aussi ici. Alors les sols sont plus ou moins profonds aussi, on peut avoir des sols de quelques centimètres et des sols qui vont pouvoir aller jusqu'à une profondeur de plusieurs mètres. Alors on va maintenant aborder les différentes fonctions d'un sol et un peu plus rentrer dans le sujet pour bien appréhender les enjeux qu'il y a derrière ce sol et les pollutions qu'il y a derrière. Alors la première fonction auquel on pense toujours, c'est la fonction de production agricole. Donc qu'elle soit alimentaire, hein, là vous avez un champ de blé en grande culture, mais aussi ce qu'on pourrait appeler production de biomasse, hein, les forêts, pour une production énergétique, hein, le bois comme source d'énergie, ou matériaux pour la construction ou la fabrication de ces tables. Le sol a aussi une fonction de support. C'est le support de nos infrastructures routières, ferroviaires. Oui, vous aviez une question ? Support de nos habitations et support de nos industries et donc de notre économie. Le sol a une fonction patrimoniale. Hein, vous voyez ici sur ces images de fouilles archéologiques que le sol conserve, ou non, plus ou moins bien, les vestiges de notre histoire. C'est aussi une source de matières premières qui va servir principalement à la construction, hein, fournit le sable, les graviers, les briques, hein, après diverses transformations. C'est une source particulièrement importante de biodiversité. Donc là, le sol a un rôle d'habitat pour tous ces êtres vivants, hein, que ce soit la taupe, le ver de terre, ou divers organismes plus ou moins petits. Alors à titre d'information et d'illustration, dans une poignée de terre, on considère qu'il y a environ une poignée de terre qui fait à peu près 200 grammes. On considère qu'il y a à peu près 0,5 g de matière vivante. Alors dit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si on rapproche si on ramène ça à l'échelle d'un hectare, ça veut dire que sur un hectare, vous avez à peu près 5 tonnes de matière vivante dans le sol. Donc 5 tonnes de matière vivante, c'est à peu près 100 moutons. Alors que sur un hectare, habituellement, la densité de moutons que l'on élève, c'est autour de 20. Hein, donc c'est très important. Cette matière vivante, elle est encore pas très très bien connue. Beaucoup d'espèces sont encore à découvrir, notamment au niveau des micro-organismes, des bactéries, des champignons, et par exemple peuvent être source de découverte de nouvelles molécules pour des nouveaux médicaments. Cette biodiversité, ces micro-organismes du sol, on le verra, peuvent jouer un rôle particulièrement important, notamment dans la dépollution des sols. Et enfin, alors je suis désolé, j'ai pas réussi à trouver d'illustration pour ces trois derniers items. Donc le sol a un rôle de stockage du carbone et a un rôle important dans les échanges et la production de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Et là, on voit naître un enjeu particulièrement important en ce moment en lien avec le réchauffement climatique. Un stockage du carbone en lien avec la production de dioxyde de carbone, gaz à effet de serre. C'est aussi un filtre pour la qualité de l'eau. On va le voir tout de suite après. L'eau que vous consommez, l'eau du robinet en général, est passée d'abord par le sol qui l'a filtrée et épurée. Et c'est aussi un réservoir d'eau. Alors si on résume un peu tout ça, en fait ce qu'on peut dire c'est que le sol a vraiment un rôle d'interface dans l'environnement. Hein, et sur ce schéma, vous voyez bien les fonctions de support là, de l'activité économique, l'activité agricole, qui va rejeter des déchets, des polluants, apporter des pesticides ou des engrais, émettre des rejets atmosphériques qui tôt ou tard vont retomber sur les sols par l'intermédiaire des eaux superficielles. Donc le sol va emmagasiner un peu tout ce flux de matière pour ensuite le filtrer, l'épurer, le dégrader et se retrouver dans l'eau. On en arrive maintenant à la pollution des sols. Alors, comme pour les sols, on va commencer par une définition. Donc, un site contaminé, c'est un espace où se sont exercées, ou s'exercent encore, des activités de production, de transformation, de transport ou de service, en gros des activités économiques, et qui, de fait de négligence, de défaut de conception ou de maintenance, a conduit à l'apparition de dommages, de risques, qui sont soit immédiats, ou soit différés, on peut ne pas en avoir connaissance au moment où ça arrive, pour les usagers, les riverains, et aussi pour l'environnement. Donc là, avec l'ajout de l'environnement, on ne considère plus que la dimension homme, mais vraiment l'environnement et tout ce que ça peut impliquer derrière. Donc c'est bien une activité humaine qui est à l'origine de la pollution. Alors il y a différents types de pollution. Des pollutions qu'on appelle ponctuelles, sont en fait des dépôts, des épandages, qui sont mis sur une surface relativement restreinte et qu'on peut assimiler à une source. Donc là, vous avez la source et la contamination autour. Et un peu en face, on a ce qu'on appelle une pollution diffuse, qui est le résultat d'épandages ou de replombées de polluants, mais là sur une grande surface. En général, les pollutions ponctuelles sont de plus grandes intensités. En fait, quand une pollution ponctuelle liée à une explosion d'une industrie ou le déversement suite à un accident d'un camion citerne, on va avoir une concentration importante de la pollution à un endroit donné. Dans le cadre d'une pollution diffuse, on va parler d'une pollution qui est plutôt généralisée, mais d'intensité plus faible, et donc qui n'est pas forcément, enfin qui même est plus complexe à déterminer. Alors, dans ces deux types de pollution, on a deux origines, enfin plusieurs origines. On a des pollutions accidentelles, donc là j'en ai déjà un peu parlé. Ça peut être par exemple une explosion d'une industrie. Là vous avez la photo de l'usine Ikmesa, qui est une usine chimique qui a explosé près de la ville de Seveso en Italie et qui a engendré une forte contamination à la dioxine. Et c'est à la suite de cette explosion que s'est mis en place maintenant ce que vous connaissez sous le nom des sites et des directives Seveso. Et on a des pollutions qui sont un peu plus, on va dire, insidieuses, ce qu'on appelle des pollutions chroniques, comme par exemple ici les gaz d'échappement, du temps où il y avait encore de l'essence, du plomb dans l'essence, voilà, produisait ces gaz d'échappement du plomb. Donc ce sont des pollutions qui sont de très faible intensité, mais qui se produisent de manière relativement continue. Vous avez aussi les épandages agricoles qui peuvent, quand ils sont répétés, et c'est le cas, qui peuvent apporter des molécules, des produits contaminants dans les champs. Donc là, c'est pareil, c'est apporté à petite dose, très petite dose, mais de manière répétée. Alors d'autres exemples, alors vous comprenez que la plupart du temps, les pollutions accidentelles donne lieu à ce qu'on appelle des pollutions ponctuelles. C'est pas toujours le cas, ça peut dépendre des polluants. Si on parle d'une autre explosion d'usine, qui est l'usine la centrale nucléaire de Tchernobyl. Donc forcément, ça a donné une pollution ponctuelle très importante, mais la radioactivité s'est épandue de manière nettement plus diffuse. Pollution chronique, donc en général, on est plutôt sur des cas de pollution diffuse, mais si vous prenez l'exemple d'une cuve du fioul qui fuit légèrement dans votre jardin ou d'une citerne d'essence qui fuit là aussi légèrement, on a des versements petit à petit, progressifs, d'une petite quantité de produits polluants. Et donc là aussi, on parle de pollution chronique, mais qui sera localisée. Alors, depuis les années 90, la France a entrepris une succession d'inventaires de ces sites pollués. Donc ça a donné naissance à deux bases de données qui sont librement accessibles sur Internet, donc consultables par le grand public. Donc une première base de données qui s'appelle BASIAS, qui est en fait un inventaire historique des sites industriels de France, donc qui sont potentiellement des sources de contamination, et une base de données qui s'appelle BASOL, qui est là une base de données des sites pollués ou potentiellement pollués, qui appelle une action de l'administration. Alors ces bases de données traitent même presque uniquement des pollutions ponctuelles. Alors là, vous avez la carte des sols pollués qui sont référencés dans la base de données BASOL en France. Donc environ 4400 sites sont référencés dans cette base de données. Alors ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut remarquer sur cette carte, c'est que en fait les sites pollués sont principalement pour la moitié d'entre eux localisés dans le bassin parisien, région Nord-Pas-de-Calais, Alsace-Lorraine, la vallée du Rhône. Et en fait, tout ça, c'est quoi? C'est le passé industriel français. Donc notamment la région Nord-Pas-de-Calais a un passé important dans ce domaine-là. Alors sur ces 4400 sites, un peu plus de 10% sont dits banalisables. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont été diagnostiqués et ils ont été considérés comme non dangereux, ou ils ont été traités et donc maintenant ne posent plus de problèmes en tant que tels. Ils sont cependant suivis pour bien vérifier que la pollution est maîtrisée. À peine 10% sont en ce moment en cours de traitement. 5% n'ont pas encore été diagnostiqués, c'est-à-dire qu'ils ont été repérés comme potentiellement pollués, mais l'étendue de la pollution n'a pas encore été diagnostiquée. 22% sont en cours de diagnostic. Et plus de la moitié d'entre eux ont, eux, été diagnostiqués et sont en attente de traitement. Donc vous voyez qu'il reste encore beaucoup de travail à réaliser. Alors quels sont les types de polluants que l'on peut rencontrer? On va rencontrer ce qu'on appelle des éléments traces métalliques, comme par exemple du plomb, du nickel, du cadmium et encore d'autres. On a une autre famille de polluants qui sont les micropolluants organiques. Donc là, quelques exemples, les hydrocarbures, les pesticides, les dioxines, les solvants, on en a déjà un peu parlé, et des molécules que l'on ne soupçonnait pas forcément il y a encore quelques années être des polluants, mais des médicaments qu'on retrouve dans l'environnement qui peuvent avoir un rôle de polluant. Après, on a les polluants radioactifs et aussi des polluants biologiques qui sont des micro-organismes pathogènes. Alors, dans cette base de données BASOL, les 10 principaux polluants que l'on rencontre en France, donc là, sur ce camembert, les parts éclatées sont les micropolluants organiques, donc c'est à peu près moitié-moitié, un micropolluant organique et éléments traces métalliques. Donc un quart des sites pollués le sont aux hydrocarbures. Alors après, HAP, ce sont des molécules ou des solvants halogénés. Et un peu plus de la moitié, donc ce sont des éléments traces métalliques. Alors maintenant, je vais illustrer un peu avec quelques exemples, dont certains sont locaux. Donc là, vous avez l'exemple d'une pollution ponctuelle, qui est le site de Metal Europe, dans la commune de Noyer-le-Godeau. Alors, ce site-là est contaminé à un élément trace, enfin, entre autres, un élément trace métallique et à d'autres. Là, vous avez une carte de répartition du plomb dans les sols agricoles. Alors, au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'usine, hein, qui est ici, là, on a une concentration de plus de 1000 mg par kilo, jusqu'à ici, à 100 mg par kilo. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si on regarde par rapport aux teneurs habituellement rencontrées dans les sols agricoles français, on tourne entre 9 et 50 mg par kilo. Donc là, on a un site qui est particulièrement contaminé et ponctuel. Pourquoi? Parce que la pollution, elle est vraiment localisée autour de l'usine et ça s'étend environ à peu près. Là, on a à peu près 5-6 km. Alors un exemple de pollution diffuse, donc là j'ai pris l'exemple de la contamination des sols antillais, donc là vous avez, c'est la carte de la Guadeloupe, à un pesticide qui s'appelle la chlordécone. Alors ce pesticide était utilisé dans les bananeraies jusqu'en encore 1993, et... En fait, on va retrouver ce pesticide dans les sols antillais des bananeraies encore pour plusieurs centaines d'années. La contamination s'étend sur 6500 hectares, ce qui représente 20% de la surface agricole antillaise. Donc une pollution particulièrement importante à l'échelle de ces deux îles, la Martinique est aussi touchée, que là on peut qualifier de diffus parce que même si c'est localisé sur les exploitations agricoles, elle est généralisée à l'ensemble du territoire et sur des grandes surfaces. Donc là, la difficulté de cette pollution, c'est que on est en face d'une molécule qui est extrêmement stable, qui se dégrade pour ainsi dire pas du tout, et donc il va être présent dans les sols, donc comme je le disais, pendant encore plusieurs centaines d'années. Alors un autre exemple de pollution diffuse, donc là vous avez la carte, alors c'est un peu barbare hein, comme nom, mais la carte des valeurs qu'on dit anomaliques, donc anormales, en cuivre, dit extractible. Donc ça c'est un peu du... Enfin peu importe. Et vous voyez ici une concentration plus importante au niveau du Bordelais et du bassin méditerranéen de ce cuivre dit extractible. Si vous mettez ça en face de la carte des vignobles français, vous trouvez une excellente correspondance entre donc, ce que je disais, le Bordelais et le vignoble du Languedoc-Roussillon. Alors en fait, le cuivre, c'est le constituant principal de ce qu'on appelle la bouillie bordelaise, qui est utilisée dans la lutte, la prévention contre le mildiou de la vigne. Donc c'est un produit qui est encore utilisé dans les vignobles. Donc là, vous trouvez sur cette carte de cuivre extractive, vous pouvez la coller parfaitement aux deux plus gros vignobles français. Donc vous voyez clairement ici l'empreinte de l'homme sur l'environnement. Alors maintenant, donc les polluants, on va regarder un peu ce qu'ils deviennent. Donc on va commenter un peu ce schéma qui au départ c'est un schéma qui traite du devenir des pesticides, mais qui peut très facilement s'étendre à tout type de polluants. Donc au départ vous avez une préparation de pesticides où, bon, prenons l'exemple d'un accident de la route avec un camion citerne qui explose. Vous avez les produits polluants qui vont à la fois se déverser sur le sol, mais aussi aller vers l'atmosphère, soit sous forme de gaz ou de poussière, ou probablement les deux. Donc si on regarde ce qui se passe au niveau du sol, donc les polluants entrent en contact au niveau du sol, peuvent être lessivés, s'il pleut, on va être entraîné vers les couches plus ou moins profondes du sol. Ça va dépendre de la nature des sols, de la nature du polluant, pour peut-être aller jusqu'au niveau des nappes phréatiques. En parallèle, les polluants peuvent rester en surface et être transférés par ravinement, par ruissellement, en surface pour atteindre ce qu'on appelle les eaux de surface, les cours d'eau, les fossés, les ruisseaux, qui aussi se rejoignent avec les nappes phréatiques. Pour ce qui est de ce qui passe dans l'atmosphère, donc là, ils peuvent retomber assez rapidement sur le sol, donc on a des retombées à courte distance, à proximité du site de l'accident, mais vous pouvez avoir des transports à plus longue distance et là occasionner une pollution un peu plus diffuse. Alors cette air, c'est une air que nous respirons, donc qui peut impacter directement la santé des citoyens qui sont juste à côté. Alors ce qui est au niveau du sol peut tout à fait se réenvoler par la force du vent sous forme de poussière ou de volatilisation des molécules polluantes et donc se retrouver dans l'atmosphère. Donc vous voyez en fait le chemin d'un polluant organique, enfin, d'un polluant tout court même, est relativement complexe et difficile à appréhender. Et là, je vais illustrer un peu ce propos avec ce que l'on a mesuré avec des collègues de l'INRA d'Orléans. Vous avez ici le Grand Nord, et c'est une carte de la distribution du lindane dans les sols de France, enfin dans les sols du Nord-Pas-de-Calais et aussi de la Normandie. Alors le lindane, c'est un pesticide qui était utilisé jusqu'à la fin des années 90, donc jusqu'en 98. Et donc on a mesuré les concentrations en lindane dans ces sols, des sols qui ont été prélevés après l'interdiction de l'utilisation du lindane. Et ce que l'on a remarqué, c'était que les sites les plus concentrés en lindane n'étaient pas forcément là où on pouvait les attendre. Si vous regardez cette carte, qui est en fait la carte de l'utilisation des sols dans la région, en noir vous avez les sites urbains, tout ce qui est jaune sont les sols agricoles, les sols de culture, et vert, ce sont les forêts et les prairies. Donc ce qu'on a remarqué, c'est que le lindane était localisé dans la région presque la plus urbanisée du Nord-Pas-de-Calais. Donc là où a priori on ne l'attendait pas. Alors il n'est pas localisé que dans les régions urbanisées, puisque vous voyez que au niveau de la côte, Dunkerque, même de Rouen et du Havre, on n'a pas de lindane. Par contre, si vous regardez un peu le relief, la région, la métropole lilloise et tout le bassin urbain correspond à la région la plus faible en altitude. Mais ce ne sont pas que les régions les plus faibles en altitude qui sont concernées, puisque là aussi, Dunkerque, Calais et même le Havre, Amiens, ne sont pas contaminés, ou ne présentent très peu de lindane. Donc en fait, c'est l'action de plusieurs facteurs, du vent notamment, qui a permis aux lindanes de se réenvoler à partir des sols, très certainement avec des poussières de sol, et de se redéposer un peu plus loin, notamment dans les régions urbaines. Alors, je vais parler maintenant un petit peu des procédés de dépollution. Alors, assez rapidement. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dépolluer, c'est à la fois compliqué, long et coûteux. Donc, le meilleur moyen de dépolluer, ce serait encore de ne pas polluer. Et que les solutions, alors il y a plusieurs étapes, mais la première étape, bien sûr, c'est le diagnostic, évaluer l'étendue et l'importance de la pollution. Et les solutions, elles sont, donc, comme je l'écris, souvent multiples et dépendent de plusieurs facteurs. Donc, d'abord, du contaminant, qui peut être multiple. Donc, on va parler de contaminants. De l'ampleur de la contamination et des caractéristiques propres du site et notamment des propriétés du sol. Alors, on a plusieurs modes de mise en œuvre. On va soit faire un traitement dit hors site, donc là on va évacuer les terres et les matériaux contaminés et on va traiter la pollution dans des centres spécialisés. Alors ça a l'avantage, on enlève la pollution, donc elle n'est plus sur place. Ceci dit, cette pollution, on va la transporter. C'est très coûteux, parce qu'en général, c'est plusieurs mètres cubes, plusieurs tonnes, plusieurs centaines de tonnes de terre à évacuer. Et c'est aussi un risque de déverser la pollution ailleurs. Alors on a les traitements dits in situ, donc sur place, où là on va travailler directement sur le site contaminé. Donc là, ça a l'avantage de laisser la pollution, de bien la concentrer là où elle est. Ceci dit, on va travailler en milieu relativement naturel avec toutes les contraintes que ça peut avoir dans la maîtrise des conditions, qu'elles soient climatiques notamment, qui sont par définition difficilement contrôlables. Et vous avez un peu un mixte des deux, qui est le traitement sur site, où là on va prendre les terres contaminées, les entreposer à côté et monter en une sorte de petite usine de retraitement sur place. Alors en fait, bien souvent, comme je disais, les solutions sont multiples. On peut, sur un site contaminé, traiter une partie par hors site et une partie sur site, et ça peut s'enchaîner différentes étapes dans le temps. Alors, les traitements in situ, donc plusieurs sortes de traitements, donc des procédés physico-chimiques qui consistent en l'action d'agents chimiques, d'air, de solvants, essayer d'extraire ou de favoriser la dégradation par voie chimique des polluants qui sont contenus dans un sol pollué, sachant que, bien sûr, il faut par la suite récupérer les effluents et les traiter. Deuxième alternative, qui est un processus biologique, où là l'idée est un peu le même, mais on va stimuler les micro-organismes du sol qui se sont au fil du temps adaptés à la pollution et qui vont être capables de les dégrader. Donc là, en général, on favorise l'aération, on va stimuler les micro-organismes du sol qui vont dégrader ces polluants, et toujours pareil, on essaye de récupérer les effluents, les résultats de la dégradation de ces polluants. Donc vous voyez, ce que je disais en introduction sur la vie, la biodiversité des sols, a un intérêt certain dans les processus de décontamination. Alors après, on a solutions plus agricoles, donc pour lesquelles l'INRA s'intéresse, hein, par exemple, qui sont des procédés de ce qu'on appelle de phytoremédiation. Alors phytoremédiation, il y a deux axes principaux, qui est la phytoextraction, c'est utiliser des végétaux qui ont la capacité d'extraire et de concentrer dans leurs organes, donc les tiges, les feuilles, et notamment ça marche surtout pour les métaux, donc on a la capacité de concentrer ces pollutions métalliques. Donc là, on va favoriser le transfert des polluants vers les plantes. Donc ensuite, il s'agira de récolter ces végétaux et de traiter, et bien sûr de surveiller le site. Et l'autre aspect, ce qu'on appelle la phytostabilisation, où là, il ne s'agit pas forcément d'extraire les polluants, mais de faire en sorte qu'ils restent bien localisés sur leur lieu d'origine. Donc là, on va utiliser des végétaux qui vont être tolérants à la pollution, ce qui n'est pas toujours évident à trouver, et utiliser des pratiques culturales, des amendements culturaux, qui vont permettre de bien fixer les polluants dans le sol. Et là, donc bien sûr, l'idée est la même, on va récolter ces végétaux on va surveiller attentivement le site. Alors, les traitements hors site, donc là, comme je le disais, donc la première étape, c'est extraire les matériaux contaminés, donc excavation. Donc on va, avec les pelleteuses, retirer les sols contaminés et le transporter vers des sites spécialisés où là on va les stocker selon leur degré de dangerosité. Différents traitements vont pouvoir permettre de décontaminer ces terres. Alors on peut avoir des traitements thermiques, donc en chauffant on peut extraire ou faire volatiliser, rendre sous forme gazeuse les molécules, ou carrément les incinérer, les brûler. On peut avoir la même chose, des traitements biologiques, stimuler la vie dans ces terres contaminées pour dégrader les polluants, et encore des traitements physico-chimiques de lavage, de stabilisation, de dégradation. Voilà. Donc, et pour finir, donc dans les quelques minutes qui me restent, je vais vous parler du recyclage des déchets en agriculture. Alors quelques chiffres. En France, on produit environ 870 millions de tonnes de déchets par an. Donc ça, c'était les chiffres de 2008. Les principaux contributeurs de déchets sont en premier lieu les activités agricoles. Alors, par le biais des lisiers, des fumiers, entre autres, qui sont considérés comme des déchets et des effluents agricoles. Deuxième contributeur de déchets, le BTP. Donc qui produit grosse quantité de déchets. Ensuite viennent les entreprises, les déchets ménagers et les collectivités locales. Alors sur ces 870 millions de tonnes de déchets, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une part très importante est recyclée en agriculture. Environ 330 millions de tonnes par an. Donc vous voyez qu'on est proche de la moitié des déchets produits. Donc les déchets principalement recyclés en agriculture proviennent de l'agriculture. Ce sont les effluents d'élevage, donc comme je disais, les lisiers, les fumiers, mais aussi une partie des déchets urbains, donc par les boues de stations d'épuration, les composts, et une partie de déchets industriels pour 7% d'industries, principalement papetières et les industries agroalimentaires. Alors pourquoi recycler ces déchets en agriculture? Parce que ça a un intérêt agricole, avant tout. C'est un amendement organique, donc on va enrichir les sols agricoles de matière organique qui va pouvoir stimuler la vie dans les sols. Ça peut être aussi la source d'une correction du pH qui au fil des cultures s'acidifie, donc on va corriger l'acidité des sols, et ces déchets peuvent avoir une valeur fertilisante, notamment par l'apport de phosphore et d'azote qui sont des minéraux particulièrement essentiels à la croissance des végétaux. Alors, ces épandages sont réglementés, on ne fait pas n'importe comment. Voilà. Donc, ils doivent répondre à différents critères d'innocuité. Donc, l'absence ou le contrôle de certains polluants, comme on a vu, hein, les éléments traces métalliques. Certains micropolluants organiques aussi sont suivis. On va contrôler l'absence de germes pathogènes et de ce qu'on appelle des inertes, c'est-à-dire des gros morceaux de verre ou de plastique ou de cailloux qui engendrent plus une pollution visuelle hein, dans les champs qu'un gros problème. Alors, ensuite, et ça c'est particulièrement vrai pour les épandages des bouts de stations d'épuration, c'est-à-dire que les sols, n'importe quel sol ne peut pas recevoir une boue de station d'épuration, ils doivent être reconnus aptes à l'épandage. Et là, vous avez ici le pourcentage de surface qui ne peut pas recevoir de boue de station d'épuration. Donc là, comme on l'a vu, les boues doivent avoir des teneurs en certains contaminants inférieurs, il y a une réglementation. Ça doit répondre aussi à un besoin agronomique et prendre en compte les autres apports d'engrais ou d'amendements qui ont été effectués sur les sols. Donc on se place dans le cadre de ce qu'on peut appeler une agriculture raisonnée. Et aussi l'entreposage des boues est contrôlé, c'est-à-dire qu'on ne n'épand pas à proximité des habitations et une fois que les boues sont sur les sols agricoles, il faut qu'ils soient enfouis assez rapidement. Voilà, donc j'en ai presque fini. Juste pour conclure, alors trois peut-être messages importants à retenir de cette présentation. Jean-Jacques, le sol, j'espère que vous l'avez compris, c'est une ressource aux usages multiples, mais ça n'est pas inépuisable hein, quand on voit les 4400 sites pollués qui sont référencés en France. C'est loin d'être négligeable. Donc c'est une ressource qu'il faut donc protéger. Et dans la dernière partie de mon intervention, donc je vous ai montré que le sol, c'est bien une interface de l'environnement qui est capable de recycler une grande quantité de nos déchets. D'où l'intérêt de les préserver et de bien les maîtriser. Alors ici, c'est la liste des documents qui m'ont servi à faire cette présentation. Donc je vous invite à éventuellement les consulter si vous souhaitez en savoir plus. Et notamment pas mal de sites internet qui sont très accessibles. Donc vous avez le portail national des sites et sols pollués, hein, sur lequel se trouvent les bases de données BASSOL et BASIAS. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la vie du sol, quelques expertises de l'INRA, le site de l'ADEME, etc. Voilà. Merci.